Bienvenue dans notre programmation Les Ondes d'intégration, une action cofinancée par le FEI, le Fonds européen d'intégration. En ce mois de novembre, nous parlons de l'accès au logement. Vous allez retrouver une émission sur la rénovation urbaine qui a eu lieu sur la rive droite de Bordeaux. Un projet piloté par le groupement d'intérêt public, Grand Projet Ville et les élus des quatre villes concernées, Floirac, Bassins, Lormont et Senon. Une rénovation urbaine qui a débuté il y a 10 ans maintenant. Vous écouterez Christophe Arpaillon, chargé de mission développement local au GIP GPV. Josette Belloc, première adjointe à la mairie de Lormont, accompagnée de Alexia Andrieux, au service Habitat Logement au CCAS de Lormont. Gilles Machroux, agent de la gestion urbaine de proximité à la ville de Floirac. Moussa Diop, ancien coordinateur expression et mémoire des habitants dans la ville de Senon. Et enfin, Anne-Hélène Defoube, responsable du pôle des politiques contractuelles à la ville de Bassins. Très bonne écoute sur O2 Radio. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur O2 Radio 91.3 pour la question d'actualité du jeudi soir. Et on se retrouve comme tous les premiers jeudis de chaque mois de 19h à 20h pour parler de médiation. Vous pouvez également retrouver cette émission en podcast sur notre site o2radio.net. Aujourd'hui, nous parlons de la rénovation urbaine sur la rive droite, pilotée par le groupe d'intérêt public du Grand Projet Ville. La rénovation urbaine a commencé sur notre territoire il y a 10 ans déjà. Alors pourquoi cette rénovation urbaine? Dans quel contexte? Comment était-elle mise en œuvre? Comment ce projet a été construit avec les habitants? Et comment l'ont-ils vécu? Et enfin, quels sont les futurs projets à venir? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui différents acteurs de cette rénovation urbaine. Christophe Arpariange, chargé de mission développement local. Bonjour.
Bonjour.
Bonsoir.
Josette Belloc, première adjointe à la mairie de Lormont, accompagnée de Alexa Andrieux, service habitat logement au CCAS de Lormont.
Bonsoir.
Bonsoir mesdames.
Bonsoir.
Gilles Machroux, agent de gestion urbaine de proximité à la ville de Floirac, accompagné de Jean-Claude Savy, qui lui est un habitant de la ville de Floirac, et aussi membre du groupe Relais Habitants, qui nous expliquera ce que c'est le fameux groupe Relais Habitants de Floirac. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Et Anne-Hélène Defour, responsable du pôle politique contractuel. Bonsoir. Et j'oublie ce nom, excusez-moi. Donc Moussa Diop, ancien coordinateur expression et mémoire des habitants, et André Hernandez de la gestion urbaine de proximité de ce nom.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc c'est pareil, vous nous expliquerez ce qu'est la gestion urbaine de proximité pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément. Alors on va peut-être commencer cette émission d'abord par rappeler le contexte et l'histoire un peu de cette rénovation urbaine, et peut-être aussi une présentation du GPV, monsieur Christophe Arpaillange.
Oui, alors le GIP, le groupement d'intérêt public du Grand Projet de Ville, a pour charge la coordination de la rénovation urbaine pour les quatre villes de Bassins, Senon, Floirac et Lormont, la communauté urbaine, et il y a eu l'État et l'Agence nationale de la rénovation urbaine avant qu'on arrive à terme et en clôture dans la période où on est actuellement.
Alors, dans quel contexte ça s'est fait, cette rénovation urbaine sur la rive droite?
C'est la rencontre d'une situation compliquée, d'une volonté du territoire et notamment des élus, et de programmes gouvernementaux qui ont constitué autant d'opportunités et de cadres d'action. La situation était connue, on est dans la périphérie bordelaise, dans la banlieue, c'est-à-dire un territoire où 50% des logements sont des logements sociaux et même très sociaux, si on tient compte des nomenclatures internes à ce qu'est le logement social, c'est-à-dire que la rive droite accueille grosso modo la moitié des gens les plus pauvres, paupérisés de l'agglomération bordelaise. C'est un endroit qui a connu la crise économique. On est donc, quand on se retrouve en 1998-99, le territoire connaît un certain nombre de difficultés sociales et urbaines. Et est intégré dans les programmes de la politique de la ville depuis 1984. Ce qui fait qu'il y a eu, à la fois de la part des élus et des partenaires du territoire, entendu les administrations, les associations, les intervenants sociaux, déjà un travail antérieur de remédiation sur le logement, l'urbanisme, les équipements sociaux, une tentative d'améliorer la situation.
Alors combien d'années de réflexion avant la mise en œuvre, avant
le lancement ? Ça a été très rapide parce que en 2000, le 99-2000, le gouvernement de l'époque et le ministre de la politique de la ville s'appelle alors Claude Bartolone, qui est maintenant président de l'Assemblée nationale, dit, mais on va créer, comme la politique de la ville jusque-là a eu des effets intéressants mais relativement limités, il faut des programmes plus ambitieux autour d'un projet de développement local avec un volet économique, un volet social et un volet urbain. Et il pose comme principe un certain nombre de logements sociaux, de toute façon, sont dans un tel état que les réhabilitations qu'on a tentées dans la phase précédente ne vont pas marcher. Il faut passer à un principe de démolition, reconstruction de nouveaux logements plus aux normes et plus standards. Et donc c'est le premier programme, Grand Projet de Ville, d'où notre intitulé La création du GIP, qui date de 2000-2001. Et en 2003, après à la suite des élections de Jacques Chirac, du changement de gouvernement, le ministre de la politique de la ville s'appelle Jean-Louis Borloo et il vient sur le territoire et il sort un nouveau programme, un peu en retrait, on n'allait pas beaucoup plus loin sur le plan économique et le plan social, mais par contre fortement dynamisé sur le plan de l'urbain, en masse de crédits, en possibilité d'intervention. Et donc, le projet de rénovation urbaine de la rive droite est issu de la fusion du grand projet de ville de 99-2000 et du programme de rénovation urbaine de 2003.
Alors, quels étaient les différents objectifs de cette rénovation urbaine sur la rive droite,
hein? Alors, les différents objectifs, on peut en revenir à ce qu'étaient les principes, en tout cas, d'intervention, qui ont été conservés malgré les changements de dispositifs institutionnels. Le premier, c'était de briser les logiques discriminatoires, hein, qui touchaient à la fois le territoire, hein, et les habitants. C'était à la fois très mal vu d'habiter sur la rive droite, d'habiter tel quartier de ce nom ou de Lormont. Et les discriminations touchant les habitants, et notamment les discriminations liées à l'origine, les discriminations ethno-raciales, qui touchaient fortement, là aussi, une composante importante de la population de la rive droite. Le deuxième axe était de désenclaver le territoire, à la fois de manière physique, on commence à voir les résultats, avec les ponts, le tramway, permettant de multiplier les communications entre la rive droite et la rive gauche pour les habitants, allant dans les deux sens, et de désenclaver aussi dans les têtes, c'est-à-dire que la rive droite est très proche du centre du centre-ville, hein, du centre de l'agglomération, et il y avait comme une barrière infranchissable.
Qui est quand même une particularité bordelaise, hein,
Oui, bien sûr, ouais. Mais donc le but était de casser ce cadre mental aussi. Le troisième axe était de s'appuyer sur la qualité urbaine et sur l'innovation sociale. Donc effectivement, des choses, le bilan qu'on avait tiré des actions précédentes était que une partie des manières d'intervenir classiques avaient échoué ou montré leurs limites, et donc il fallait à la fois renforcer en termes de moyens, mais surtout changer un certain nombre de méthodes, travailler, décloisonner les manières d'intervenir.
Alors est-ce que pour revenir sur ça, décloisonner les manières d'intervenir, c'est quoi ?
Ça veut dire faire travailler, par exemple, les bailleurs et les travailleurs sociaux. On va en reparler sur le relogement et ses suites. Le bailleur tout seul est un peu désarmé pour appréhender une situation sociale, et les travailleurs sociaux, assistantes sociales, conseillères en économie sociale et familiale, ont besoin d'avoir un partenariat pour trouver des réponses aux besoins des gens qu'elles suivent. D'accord. Donc on ne peut plus travailler de manière segmentée. Et ça, c'est valable sur la santé, sur l'économie. Il faut lier la demande d'emploi et l'offre et trouver les moyens d'intervention et de médiation pour que les deux s'ajustent. Et enfin, ça a été de raisonner et travailler à l'échelle intercommunale. Et là aussi, on n'a pas choisi l'intervention sur le quartier, mais à l'échelle du grand territoire, parce qu'il y avait une homogénéité de la population, une communauté de problèmes et de pistes de solutions, et puis parce que la population bouge, et puis de communiquer et d'impliquer les habitants, autant que faire se peut, dans le projet.
Alors, avant de faire un bilan, on reviendra vous voir là pour le bilan des 10 ans de la rénovation urbaine, je me tourne vers les villes, donc peut-être avec Josette Belloc, première adjointe à la mairie de Lormont. Alors, comment vous avez intégré ce projet? Depuis quand la rénovation urbaine a été mise en place sur la ville de Lormont?
Mais si vous voulez, sur la ville de Lormont, nous avions deux quartiers à forte rénovation urbaine, c'est le Carrier et puis Génicard. Alors pour Carrier, la première des préoccupations et celle sur laquelle nous avons commencé à faire un bilan, c'est quand même tout ce qui est un peu bâti, comment on analyse finalement une mutation de quartier. C'est d'abord à partir du bâti, c'est-à-dire les formes urbaines, mais aussi les emprises bâties, trois typologies dans les emprises bâties, le résidentiel, les équipements publics, les locaux d'activité. Toutes les surfaces, voiries publiques, privées, ainsi que les surfaces affectées au stationnement public, les circulations piétonnes, et puis les paysages. Et là, je crois que le renouvellement urbain a démarré comme ça. Et ensuite, on a pu, au fur et à mesure, inclure la participation des habitants, mais au départ, ça venait d'en haut, et la consigne était de gérer d'abord les démolitions, les reconstructions, les relogements, avec l'accompagnement, certes, des habitants dont Alexia est spécialiste, mais au départ, la participation des habitants est venue par une sorte de cheminement, à travers trois étapes que je qualifierais à la fois l'information, donner l'information sur les projets. La deuxième, c'était la consultation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pouvait réajuster, qu'est-ce qu'on pouvait modifier à partir des attentes et des désirs des habitants. Et puis la troisième, où on est maintenant, je pense, un peu à maturité, mais encore, je dirais, sans angélisme, qu'il y a beaucoup de travail à faire, c'est la concertation. Voilà. Donc on a des bilans très expressifs et que je mets à la disposition des habitants de Carrier, d'un document qui précise en 2003 par rapport aux typologies que j'ai indiquées et en 2013 où on en est exactement au 4 septembre 2013. Et c'est très intéressant et je les invite à venir le consulter au kiosque, aux deux kiosques.
Je vous remercie, Josette Belloc. On reparlera un peu de la participation des habitants, parce que c'est un axe central là, de cette émission. Mais je vais d'abord me tourner vers Anne-Hélène de Fougue pour la ville de Bassensin. Alors, comment vous êtes entrée dans cette rénovation urbaine et quels étaient vos objectifs, les objectifs de la ville?
Alors, Bassin, c'est la commune la plus petite, on va dire, des communes du GPV, avec des quartiers prioritaires repérés bien plus petits que les autres quartiers, mais néanmoins qui présentaient des problématiques similaires. La question s'était posée dès la fin des années 90 pour le quartier du Bousquet, qui est adjacent au centre-bourg, avec des bars, qui vieillissaient, des logements, qui étaient vraiment vieillissants. Et l'objectif, c'était vraiment d'arrêter ce processus de vieillissement du parc social, d'agir en faveur des populations les plus démunis, qui habitaient dans ces logements, de vraiment rapprocher le quartier au centre-bourg, de le banaliser, vraiment d'en faire un quartier comme les autres, et de renforcer tout ce qui était équipement public, espace public et équipement public. Donc, une première convention qui avait été signée en 99, je crois, une convention de renouvellement urbain, et qui s'est trouvée amplifiée en 2003, avec la création de l'ANRU, qui a permis de vraiment d'amplifier considérablement les objectifs du projet, et puis la dimension du projet aussi.
Alors, ça a concerné combien de personnes? Combien de personnes sont concernées dans la rénovation urbaine sur la ville de Bassens?
Plutôt parler en termes de logement, là, parce que je n'ai pas forcément le rappel des nombres de la population. Sur le Bousquet, ça concernait 200 logements. Le Bousquet est presque terminé, pratiquement fini actuellement. Par contre, on a travaillé, on a eu deux autres projets de renouvellement urbain. Un autre qui est terminé sur le quartier de Maignan également, mais sans intervention de la rue. Et nous travaillons actuellement depuis plusieurs années sur le projet du quartier Prévert, qui est un quartier à l'extrême nord de la commune, qui est isolé et sur lequel il faut vraiment qu'on puisse intervenir collectivement et sur lequel on essaie vraiment, comme on l'a fait sur le Bousquet, mais là on en est plus au début, de faire participer les habitants, ce qui n'est pas toujours évident, mais on essaye de trouver la bonne entrée pour ça.
D'accord, je vous remercie Anne-Hélène Defoux. Je me retourne vers la ville de Senon avec Moussa Diop et André Hernandez. Alors, comment s'est passée la rénovation urbaine au départ, en tout cas dans la ville de Senon?
Alors, la rénovation urbaine à Senon, hein, dans son premier temps, parce que en entendant les différentes interventions, on peut dire qu'on rentre dans cette même logique de convention entre l'État et la ville. Mais à Senon, c'est le quartier du 8 mai 45 qui était vraiment prioritaire, qui était concerné, avec une population de 5000 habitants. Et il y avait deux ensembles de grandes tours, le Grand Pavois et la Barre André Gide, qui concentraient en fait 500 logements. Et la priorité, c'était vraiment de proposer, comme c'est dans un des objectifs du GPV, un habitat plus humain et une ville où des choses peuvent s'y développer, s'y produire. Bon, il y a un certain moment, on parlait de ces villes dortoirs, mais à l'image de toutes les villes, de toutes les communes de la rive droite aujourd'hui, on peut, disons, révoquer cette idée, parce que les gens y vivent, y travaillent. Et aujourd'hui, les phases complexes de relogement sont derrière nous, et c'était ça les plus problématiques. Et sachant que par rapport à ce relogement, Arpaillan avait évoqué un aspect très important, qu'il fallait décloisonner les pratiques entre acteurs qui partagent, qui se retrouvent sur le même terroir. Et on s'est rendu compte que, en tout cas, et j'ose croire que c'est aussi ce qui s'est produit dans les autres villes, à Senon, dans les commissions d'attribution de logement, le bailleur n'était plus seul. Il y avait les chefs de projet, ceux qui étaient sur le terrain en contact avec les habitants. Pour dire qu'effectivement, parlant de participation des habitants, en tout cas sur ce volet, il y a une requête, ou sinon même des requêtes des habitants, mais qui ont contribué sur les façons de redistribuer ou de reloger. Et je pense que c'est un élément très important. En attendant de revenir sur la participation
oui,
des
bien
habitants.
Sûr, ouais. Allez-y, André.
Alors, moi, je suis à la gestion urbaine de proximité. Alors, c'est quoi la gestion urbaine de proximité? C'est la recherche permanente de l'amélioration des conditions de vie des habitants. Cela se fait en écoutant les besoins, les remarques et parfois les critiques des habitants. Alors, mon rôle à la JUP est de générer des actions qui visent à améliorer les conditions de vie de ces habitants de chaque jour et ainsi de suite, quoi.
Merci André Hernandez. On va passer à Florac et après on donnera la parole à Alexis Andrieux justement sur le logement, comment le logement et le relogement, comment ça se passe. D'abord je donne la parole à Gilles Machroux. Donc oui, comment s'est inscrit la ville de Florac dans la rénovation urbaine? Depuis quelle année? C'est depuis 2006, hein, je
ouais,
crois. Oui,
2006. Moi je suis arrivé il y a 5 ans en tant qu'animateur dans la gestion de proximité. Alors il y avait déjà eu des informations, il y a eu des concertations avant que j'arrive, etc. Mais ce qui manquait, c'est un petit peu la participation des habitants. Et moi je suis vraiment, je pense, dans ce rôle-là. Donc je dirais que mon boulot, ça a été de faire connaître le projet aux habitants des quartiers. C'était pas évident parce qu'il y avait des gros instants, etc. Ils pouvaient s'y perdre avec les termes, etc. Et on a créé des outils qui a permis peut-être, d'ailleurs Jean-Claude va en parler tout à l'heure, à des habitants de quartier de s'investir dans des instances. Alors style CLSPD, comité local de sécurité, la GUB, gestion urbaine de proximité. Ça va être aussi dans les différents quartiers, ça va être des référents dans les quartiers. Donc voilà, mon boulot, c'est surtout ça. Et je crois que tu connais bien le territoire, Sandrine.
Oui, je connais bien le territoire, oui.
Tu as travaillé avec moi pendant un an dans la M270, hein, qui était un lieu stratégique sur le Bas-Florac. Grâce à cette infrastructure implantée en plein milieu des quartiers, ça a permis aux gens, parce qu'il y avait 530 de démolition quand même au niveau des bâtiments, bah, de se rassurer un petit peu, de venir dans ces structures, donner pour demander l'information, et moi j'essaie au mieux que je pouvais de donner cette information.
Quoi. On va reparler de la participation, mais l'objectif de la mairie à travers cette rénovation urbaine au départ, sur tout l'aspect logement, économie, est-ce qu'il y avait des objectifs particuliers ou c'est, vous avez à peu près tous les mêmes objectifs hein ? Vous avez les mêmes problématiques sur tous les territoires ?
Moi, je crois que oui, il me semble, tout ce que j'ai entendu depuis sur les trois communes amies, je dirais, oui, on est sur les mêmes critères et mêmes objectifs.
Hein,
bien sûr. Et c'est cohérent d'ailleurs.
Vous connaissez les quatre territoires, vous, donc c'était exactement les mêmes problématiques ?
Si le dosage précis n'est pas exactement le même suivant les quartiers, la problématique générale, oui. C'est un habitat qui est vétuste, qui est de qualité moyenne, en tout cas plus adapté aux demandes actuelles de confort sonore, hein, notamment l'isolation phonique, sur l'isolation thermique, qui on sait le poids de l'énergie pour les locataires et des propriétaires d'ailleurs quand il y en a de logements. Donc il y a un des axes a été assez clairement la modernisation du logement. Le deuxième a été la diversification, à la fois la diversification du logement social, c'est-à-dire proposer du logement HLM, mais un peu différent de celui qui existait, pour permettre des parcours résidentiels, et d'essayer d'introduire une diversité en incluant des logements libres ou des logements en accession à la propriété pour que des gens en logement social puissent devenir propriétaires ou que la transformation du territoire aidant, on puisse arriver à diversifier la population aussi.
D'accord, je vous remercie. Alors, avant de faire parler Alexandrieux, je vous propose d'écouter une interview de Sonia, une habitante de Lormont, qui parle de plusieurs problématiques, mais au départ parle du logement, donc un problème de logement, relogement qui était plus cher, donc elle a été obligée de redéménager une troisième fois. Donc je vous propose de l'écouter.
Je suis Sonia, j'habite sur Lormont depuis 26 ans.
Alors comment avez-vous vécu la transformation de cette ville ?
Mais psychologiquement et financièrement, je suis touchée parce qu'on a démoli mon logement. Je suis partie dans les nouveaux. Et après, j'étais obligée de partir dans les anciens parce que les charges étaient élevées. Et dans les anciens, j'ai vu qu'il y avait des rénovations. Déjà, depuis 2007, il n'y a que des travaux sur leur mot. Et ça nous gêne pour la circulation, pour les parkings. Tout devient un problème dans la vie quotidienne. Pour les parkings souterrains, nous, on n'est pas content. Devant chez nous, on n'a pas de parking. On doit payer pour avoir un parking souterrain et c'est cher. Si les gens ils ont plusieurs voitures, ils sont pénalisés. Pour la rénovation des appartements, il y a plus de changements vis-à-vis de l'extérieur que l'intérieur. Tout ce que Domofros s'occupe, c'est l'extérieur. Ils s'en fichent de l'intérieur des logements. Ils font la peinture, ils changent les balcons, ils font tout, mais l'intérieur, c'est vraiment ancien. Il y a l'humidité, il y a la saleté.
Alors comment vous avez été informé et impliqué dans ce projet de renouvellement urbain ?
On était informé plus ou moins, mais pas assez bien, quoi. On n'a pas demandé notre avis si on voulait des changements ou pas.
Est-ce qu'il y a des réunions auxquelles vous auriez pu aller ? Vous n'avez peut-être pas été ?
Non, il n'y a eu aucune réunion. C'est nous, plutôt les locataires, qui ont demandé des réunions, qui ont manifesté pour que tout ça ne se produise pas.
Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez dire ?
Je veux simplement qu'ils écoutent les locataires, parce que c'est nous qu'on paie le loyer. Et...
Alors, on a écouté Sonia, donc, qui est une habitante du quartier Saint-Hilaire à Lormont. Donc, c'est des problématiques, là, ça touche Lormont, mais c'est quand même global. Hein, c'est des choses qu'on entend dans toutes les villes, hein, je tiens à le préciser. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses positives qu'on écoutera un petit peu plus tard. Alors, je voulais quand même parler de la première chose, c'est le logement. Donc, c'est vrai qu'on entend hein, des gens qui disent, bah oui, on déménage, on nous reloge, mais c'est plus cher. Donc, surtout le problème de charge, hein, je crois. Alors, Alexandrieux, comment ça se passe, comment ça s'est passé, ce relogement ?
Oui, alors c'est vrai que ce témoignage, il fait effectivement écho à plusieurs choses. Pour reprendre un petit peu l'historique, fort de l'expérience de Carrier, en fait, la convention d'Eugénicard a été signée en novembre 2006. Du coup, toute une méthodologie a été réfléchie et mise en place avec l'ensemble des partenaires. C'est quelque chose de très important. Donc, en fait, la phase d'information, elle a commencé... Alors, en préalable, on a la particularité, nous, d'avoir 3 bailleurs sociaux sur la ville. Donc, en fait, des réunions d'information ouvertes aux locataires des logements démolis ont eu lieu. Donc, quand c'était 3 grandes tours, en fait, c'était une réunion par tour. Donc, ça correspondait déjà à 100 logements. C'était quelque chose d'assez important. Donc, toutes ces réunions d'information, elles ont eu lieu. Après, il y a eu la phase de rencontre des ménages avec toujours le souci de se dire que le relogement, c'est la responsabilité du bailleur. Donc nous, on est venu vraiment en complémentarité avec, on va dire, nos formations, notre savoir-faire, pour justement être présent dès qu'il pouvait y avoir un problème, ou en tant que médiateur aussi, sur beaucoup de situations. Donc normalement, les gens qui ont été relogés parce qu'ils ont eu un logement démoli, ont forcément été rencontrés par le bailleur, par la ville, par les partenaires, les services aussi du département, la MDSI, le CLAP aussi, pour notamment la communauté turque, qui était très présent. Donc, normalement, ils ont été, en fait, rencontrés. Forcément, on s'est aussi basé sur leurs souhaits pour pouvoir leur proposer un logement. Alors, la deuxième question, effectivement, puisqu'on l'entend souvent, et c'est une réalité, hein, les nouveaux logements sont effectivement, règle générale, plus chers que les anciens, avec des anciens où les charges collectives sont comprises, c'est-à-dire le chauffage et l'eau, et des nouveaux logements où on a le loyer, et après, il faut ouvrir les compteurs d'eau, de gaz, d'électricité, en fonction de l'équipement des logements. Donc là, en fait, on est aussi, lorsqu'on a des charges individuelles, sur les pratiques des ménages et leur propre consommation. Alors effectivement, on a mis en place des réunions aussi, notamment on a travaillé ça avec les bailleurs et le FSL, sur des réunions d'information sur la maîtrise des énergies, puisque ça nous a paru assez important au vu du changement assez important, justement de pratiques à avoir pour l'ensemble des nouvelles constructions sur Lormont. Alors après, est intervenu aussi pour 2 bailleurs sur 3, j'allais dire en tout cas Domo France et Aquitanis, une minoration pour justement, en fonction de chaque cas et chaque étude de cas, on va dire, arriver à mettre une somme d'argent, pour être assez concret, sur l'ensemble de la durée du bail, pour que le loyer avant soit équivalent au loyer nouveau.
Avec les charges. Jean-Claude, savez-vous voulait intervenir ?
Oui, juste, bon, pour dire que dans ce cadre-là, la ville de Florac, à l'occasion de ce relogement, a mis en place le groupe Relais Habitants, justement, pour accompagner, parce qu'on était conscients qu'il y aurait beaucoup de problèmes, pour accompagner dans les déménagements.
Alors, on va profiter pour présenter le groupe Relais Habitants, Jean-Claude.
Oui. Alors justement,
parce que les auditeurs ne connaissent pas tous le groupe Relais.
Sachant que la ville de Florac est une ville de moins de 20 000 habitants, elle n'était pas tenue à avoir des structures réglementaires style conseil de quartier. Il a été donc décidé de mettre en place des instances participatives, mais non formelles, quoi. Enfin, voilà. Et l'opportunité a été justement le relogement. Donc, d'où la création de ce groupe Relais Habitants. Le mot relais étant la liaison entre les habitants et les instances administratives ou techniques. Alors, ça a été effectivement la grosse problématique. Ça a été pour certains, c'était de passer d'un logement où ils étaient assistés totalement au niveau des charges, où les charges étaient incluses dans le prix du loyer, à des zones de logement où, effectivement, le logement est une chose, mais tout ce qui était satellite au logement, le chauffage, l'électricité, le gaz, c'était à part. Mmh. Et là, ça a été effectivement pour certains de grosses déconvenues et découvertes. Et même des problèmes vraiment sociaux. Alors ça a été un gros travail de fait. Et ça a été donc la cellule de base, enfin, du groupe pour l'habitant qui, en alliant les techniciens de la ville et mais des gens qui n'étaient même pas concernés par le relogement. Puisque, et aujourd'hui, le groupe pour les habitants, donc, il a peut-être perdu ses habitants, disons, relogés, mais il regroupe aujourd'hui les habitants du quartier qui profitent de cette instance, de cette structure que je dis bien informelle, hein, et on y tient. Hein. Et ça nous a permis, donc, à partir de là, de nous inscrire dans tout ce qui était vie citoyenne et peut-être fait démarrer une citoyenneté nouvelle, enfin nouvelle qui, oui, qui aurait dû exister, enfin qui devrait exister. Bon, ça a été la participation de ce des membres de ce groupe pour l'habitant aux instances qui sont mises en place par le groupe le GPV, c'est-à-dire les GUP, mais aussi la gestion urbaine de proximité, mais aussi le CLSPD qui est le comité local de sécurité,
la prévention
de la délinquance, mmh, très important aussi, hein. Oui, parce que c'est bien les acronymes, mais
oui, oui, oui. Et c'est d'ailleurs, mais c'est ce qui n'est pas toujours facile, voilà, pour les, voilà, habitants, c'est de comprendre, c'est toutes ces instances.
Voilà.
Si on peut revenir là-dessus, c'est.
C'est vous dire que le groupe pour l'habitant, partant de la rénovation urbaine,
ça a permis d'évoluer
la participation. A évolué. Et bon, le seul regret, c'est qu'on aimerait être consulté en amont des projets.
D'accord, donc on va en parler. Christophe Arpaillon, je voulais intervenir.
Enfin, on peut réagir à ce témoignage avec deux manières. La première serait très technocratique, de dire on a mené un observatoire du relogement pour regarder les équilibres, les restes à vivre, les catégories, et on a statistiquement un ensemble équilibré, donc globalement, il n'y a pas eu d'augmentation perceptible d'efforts
pour le logement.
Mais le problème de la statistique, c'est évidemment qu'elle cache toute une série de situations individuelles, et qu'à l'intérieur de cet équilibre global, il y a des gens pour qui ça a été du plus, et d'autres qui ont gagné assez largement par rapport à ce qu'ils qu'il payaient. Donc on a eu notre observation et on a eu une étude qui a été faite par le laboratoire de sociologie de Bordeaux 2, qui est aussi, alors là, pas statistique, ils sont allés aller voir des gens qui étaient en situation de relogement ou parfois restés dans leur logement ancien. Et là aussi, globalement, on a 80-85% de gens qui se disent satisfaits du après et avant. Pour autant, oui, c'est la réponse technique, oui, qui dit qu'effectivement, ça s'est plutôt bien passé pour la grande majorité des gens. Ceci dit, il ne faut pas oublier qu'on est allé poser à ces ménages sur de 2600 logements des problèmes qu'ils ne se posaient pas. Ils étaient là et puis un jour on est venu les voir en disant voilà, dans 6 mois ou 8 mois votre logement va être détruit et donc il va falloir que vous bougiez. Alors effectivement, ça n'a pas le même impact pour des gens qui viennent d'arriver et pour ceux qui sont là depuis 30 ans. Les possibilités de se reloger, ça n'a pas le même impact et c'est plus facile quand on est une personne âgée, même avec une petite retraite, parce qu'on a un appartement F4 et puis que du coup, même si le loyer dans le 9 augmente, on va quand même moins payer si on passe dans un F3. Donc il y a tous ces enjeux qui sont derrière et du coup, il faut bien comprendre qu'il y ait des gens qui l'aient vécu difficilement. Et cette dame a visiblement voulu jouer le jeu, aller dans le 9, donc quitte à payer un peu plus, elle n'a pas pu, il a fallu qu'elle revienne dans l'ancien, donc il y a eu
une partie requalifiée,
et d'ailleurs quand même on a fait un petit peu plus que des peintures, ce qui s'est quand même beaucoup fait.
Ça, c'est un autre problème que je voulais voir avec
mais
vous.
Mais
c'est
quand même beaucoup fait, c'est on a posé des protections, alors c'est vrai que ça fait des plaques rouges ou beiges sur les murs, mais c'est aussi des choses qui ont un rôle dans la protection phonique et dans la protection thermique, c'est-à-dire qu'on dépense beaucoup moins d'énergie dans le logement, et ça effectivement, elle peut difficilement le savoir, mais c'est un peu plus que de
je vais juste me permettre de réintervenir là-dessus sur cette interview, parce que il y a eu d'autres interviews que je n'aurai pas le temps de passer aujourd'hui, j'en suis désolée d'ailleurs pour les personnes qui ont témoigné, parce que pour eux c'est quelque chose d'important. Donc là, c'est sur le quartier Saint-Hilaire. Et justement, une autre personne qui est intervenue dit que lui, la couleur, il s'en fout. Hein. C'est l'aspect, on leur a demandé, mais globalement, c'est pas ça l'important. Lui, c'était vraiment la qualité à l'intérieur. Et c'est ce qu'elle dit, la dame. Hein. Elle a dit, j'ai l'impression qu'on fait du beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, on touche pas grand-chose. Et donc, l'autre personne, c'était sur un problème de sécurité au niveau des balcons. Et la question est, donc ça peut arriver, hein, ça peut être, voilà. Mais comment, du coup, vous, en tant que ville ou GPV, je ne sais pas si vous pouvez intervenir là-dessus? Enfin, voilà. Donc, Moussa Diop, vous voulez intervenir?
Alors, oui, c'est arrivé à Moussa, à la ville de ce nom. On a eu à mettre en place un programme qui s'appelle Images, Récits, Rencontres d'habitants. Et durant cette période où les constructions commençaient dans le quartier du Mai 45, étant coordinateur de la mémoire expression des habitants, j'ai organisé une rencontre entre des habitants qui se questionnaient sur les types, les choix architecturaux des architectes, sur une définition technique des logements. Et du coup, je me suis dit qu'il serait intéressant de créer un espace de rencontre entre les architectes qui ont eu à travailler dans le quartier du Mai 45 et les habitants. Et je pense qu'une rencontre a été même organisée ici, dans votre studio. Et ça a été très, très fructueux, parce que les habitants ont découvert qu'en face, qu'ils avaient des architectes qui avaient quand même une pensée, une approche humaine des logements qu'ils proposaient. Et du coup, à la sortie de cette rencontre, il y a eu une compréhension sur le choix, sur quel type de trépied, par exemple, des bâtiments. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un apaisement. Donc, moi, je pense que ces questionnements, le questionnement de cette dame, c'est parce qu'en amont, peut-être qu'on n'y avait pas beaucoup expliqué les choses, parce que les gens s'expriment en fonction de leur vécu. Et ça, je pense que c'est très, très important.
Alors justement, comment vous avez construit la ville avec les habitants? Donc est-ce qu'on peut avoir des choses concrètes, des projets concrets que vous avez menés avec les habitants? Alors Josette Belloc, peut-être à leur mot.
Oui, justement, mais sans se justifier par rapport à l'interview précédente, bon, c'est vrai que les deux quartiers en rénovation sont complètement différents. L'un est à 3900 habitants et l'autre, c'est la moitié de la ville, à savoir 9500 habitants.
Oui, vous êtes le plus gros projet, je crois, de rénovation urbaine.
On ne conduit pas le plus gros projet d'Aquitaine. Donc, on ne conduit pas, si vous voulez, c'est pas la même efficacité au niveau de la participation, mais on ne la conduit pas de la même façon. Cependant, là, pour compléter ce que dit Alexia, le porte-à-porte a été fait. Quoi. Et je veux dire, c'est vrai qu'entre le moment où on leur dit qu'on va rénover, on va réhabiliter et que ça se passe, on fait l'information par exemple en 2009 et que le résultat est en 2013, on a complètement oublié. On ne sait pas peut-être gérer ce temps entre le moment où on annonce le projet, où on informe sur le projet et le temps finalement où on prend possession du logement, même si on s'y applique. Mais là, justement, de cet exemple-là, on peut en tirer les fondamentaux de la participation des habitants, c'est-à-dire qu'il faut diversifier les outils, il faut mettre des gens sur le terrain, des gens qui vont, et ça, bon, Alexia le fait, Domo France le fait aussi, ils ont recruté quelqu'un qui fait du porte-à-porte, c'est de travailler en partenariat, mais de diversifier les outils, les kiosques, la proximité, repasser, redire, afficher, tout ça, mais je dois dire que c'est quand même très compliqué, parce que les habitants, on pourrait parler des freins, si vous voulez, des équipes de la ville, de la ville qui conduit la politique de la ville. Je pourrais en parler des freins qui existent aussi, parce que c'est pas naturel qu'un technicien ou qu'un fonctionnaire qui s'occupe de la politique de la ville aille directement vers les habitants. Je vous assure qu'il faut changer la culture, parce que c'est une transformation un petit peu à la marge du métier quand même. Ensuite, je pourrais parler des peurs des habitants aussi, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien à dire. Alors, ça a l'air de dire catastrophique. Non, c'est pas catastrophique. Ils ont des peurs qu'il faut dépasser, des peurs qu'il faut comprendre. Et à partir du moment où on a compris comment tout cela fonctionne, on peut mettre en place des actions qui sont pertinentes et qui servent, qui sert énormément au quartier. Chacun des quartiers en renouvellement urbain a une mémoire, a une histoire, a une ambiance, a une façon de vivre, et on doit faire, à mon avis, si on veut réussir, la participation, elle doit serrer à la personnalité du quartier et à la typologie du quartier.
À ce nom, alors, André Hernandez.
À ce nom, tous les mois, nous avons des réunions de quartier. Moi, je travaille avec trois adjoints, à savoir Madame Alves, Monsieur Moretti et Monsieur Trénaud. Et donc, tous les mois, il y a une réunion donc, de quartier, à savoir que les administrés, tout le monde ne peut venir à cette réunion. Quand il y a des doléances, c'est là, il y a Monsieur le maire, enfin, qui est sur place également, ils peuvent s'exprimer. Ensuite, il y a des diagnostics en marchant. Donc, avec ces trois adjoints, une fois par mois, avec des représentants des associations, on se rend sur les lieux. Ce qui n'a pas été fait suite aux doléances dans les réunions de quartier, on constate. Et une semaine après, donc, le travail est fait, quoi. Donc, pour moi, je pense que les administrés, si je ne sais pas comment ça se passe sur Lormont ou Florac, mais
on va laisser la parole à Gilles d'ailleurs.
J'aime beaucoup les réunions de quartier de ce nom et le suivi. C'est surtout, je crois que les habitants sont ravis de ça parce que ils sentent que ça tombe pas en l'air, hein, et on reprend chaque fois. Il y a les techniciens qui sont présents et tout est noté. Et puis il y a l'implication du maire aussi qui est très importante.
Tout à fait. Et en plus, dans ces réunions de quartier, de temps en temps, il y a même les bailleurs. Donc, ce qui veut dire que si quelqu'un, un administré, a quelque chose à dire, il peut le dire donc directement au bailleur et éventuellement, après, bon, ben voilà.
Alors, je vais laisser la parole à Gilles Machroux à Florac, qui voulait intervenir.
Oui, je voulais rebondir sur le relogement. Alors, moi, ce qui me satisfait, c'est que quand, sur les 532 personnes qui ont été relogées, 95% ont voulu habiter la ville, c'est-à-dire dans le même quartier. Ça, c'est un signe, c'est-à-dire qu'ils aiment leur ville. Alors qu'on a des gens comme ça qui aiment leur ville, ben, c'est, je dirais, encore plus facile de pouvoir les impliquer, je dirais, dans des prises de décision. Après, tu disais, Sandrine, d'avoir quelques exemples. Alors, moi, j'ai un exemple qui me plaît bien, c'était concernant les dénominations des noms de rue. On a deux nouveaux quartiers qui sont créés sur la commune de Florac et la commune nous a demandé, dit voilà, on a une trentaine de noms de rues à trouver. Donc ils ont demandé au groupe pour l'habitant, donc qui représente quand même entre, je dirais, 30 à 50 personnes des fois, ça arrive, de trouver des noms de rues. Donc on a fait un travail de 6 mois pratiquement, Jean-Claude, tu me dis si c'est pas logique ce que je dis. Et en fin de compte, on a fait des propositions. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les propositions qui ont été faites par ces gens de quartier, ils ont tous été validées. Alors on va sur Allée Coluche, on va sur...
Je vais passer la parole à Anne-Hélène Defoucq, pour ne pas être misogyne, hein, donc de Bassins, et après Moussa Diop qui souhaitait intervenir aussi.
Alors pour donner des exemples sur la participation des habitants telle qu'elle a été mise en œuvre à Bassins sur le projet du Bousquet, ça avait été autour de deux axes, un axe mémoire et un axe environnement, cadre de vie, mieux vivre ensemble en fait. Par exemple, sur l'axe mémoire, il y a eu toute une action qui s'appelait Récits de vie, où on est allé voir tous les habitants, enfin en tout cas qui le voulaient bien, pour qu'ils nous parlent de leur vécu, de leur vécu dans le quartier, de leurs petites histoires en fait, ce qui est un petit peu leur identité, l'identité du quartier, tout ce qui faisait le quartier en fait, et qui a donné lieu à une publication qui a été... renouvelé même plusieurs fois. Et on a renouvelé cette expérience sur d'autres quartiers. Ça marche toujours très bien et c'est toujours très intéressant parce que ça permet aussi aux habitants de se projeter sur d'autres choses et de se voir avec d'autres et de se voir au sein de la commune et donc ne plus être qu'un habitant d'un quartier en particulier, mais d'être un petit peu plus largement... des habitants de la ville.
D'accord. Non, je vais d'abord intervenir juste parce que j'ai quand même deux interviews à passer avant. Je voulais juste vous demander quelle forme de participation il y a eu dans vos villes. Est-ce qu'il y a eu... donc on sait qu'il y a trois formes de participation différentes. Moussa Diop, vous allez pouvoir intervenir parce que c'est sur ce nom l'interview après. Et donc, est-ce qu'on est sur de l'information, de la consultation ou de la concertation? Voilà. Est-ce que vous avez pu faire les trois?
Alors...
Ou est-ce que vous êtes plus... Il y a une dominante quand même. Alors, Moussa Diop, à ce nom, alors, je vous laisse parler.
voilà, je vais répondre à votre question, mais si je pars des outils de Bassens, je pense que dans le cadre du programme que j'ai coordonné, on avait mis en place un journal où vraiment la parole de l'habitant est restituée. Et on a essayé de respecter au plus près cette parole-là. Et je pense que c'est très, très important. Parce que, en fait, l'histoire de ces personnes qui ont vécu pendant des années dans des logements, il n'était pas question de venir les démolir comme ça sans faire ce travail de mémoire. Donc, nous, on a eu le journal qui s'appelait Vue d'ici, qui est aujourd'hui une rubrique du journal municipal et qui reprend la même démarche. On a organisé beaucoup de rencontres entre habitants, mais également entre habitants et techniciens. Et ces histoires, ces récits de vie ont été également transposés sous forme de documentaires vidéo. Et aujourd'hui, 10 ans après, il y a des habitants qui s'adonnent, qui sont vraiment contents à revoir leur ancien quartier. Par rapport à votre question, je pense que l'habitant aujourd'hui est peut-être considéré comme un habitant expert. L'habitant n'est plus ignorant des projets qu'on lui propose. Maintenant, comment l'impliquer? On sait que la participation, elle ne se décrète pas, elle se construit. Et pour la construire, Madame l'a dit, l'élu de
l'Ormont, Madame Belloc.
Madame Belloc l'a dit tout à l'heure. Il faut avoir une autre façon de faire. Alors cette autre façon de faire, moi personnellement, je l'ai vécu. Parce que pour aller capter la voix des sans-voix,
oui,
ces gens qui ne sont jamais dans les réunions de quartier, pour des raisons peut-être sociales, économiques, familiales, il faut sortir des créneaux administratifs. Et ça, je sais qu'à Senon, ça a été une volonté politique très forte. Ce qui fait que 95% du contenu des outils que j'ai proposés, ben en fait, je les ai alimentés en dehors des créneaux, disons, de l'administration, des créneaux prédéfinis. Donc, ces gens, je pense qu'à force, se sont sentis concernés par le projet et c'est une façon de mener une médiation, de dégonfler la tension qui pourrait exister entre la perception de ces habitants et les projets qu'on leur propose. En tout cas, sur ce plan-là, à Senon, je ne dis pas que tout roule très bien, mais ce travail de mémoire était très, très, très important.
Alors, il nous reste 10 minutes. Je propose à Josette Belloc, d'intervenir. Vous souhaitez intervenir et oui, après, je fais passer une autre interview.
Voilà, juste une petite réaction. Quand on parle autour de la table de mémoire, images de ma ville, de passé et d'histoire, vraiment, c'est la première étape, effectivement, consensuelle, où les habitants s'impliquent. Les choses deviennent difficiles quand on leur demande de se projeter un petit peu sur l'avenir et d'imaginer le quartier durable. Et là, les choses commencent à devenir compliquées. Parce que si vous voulez, c'est une négociation autour de la table avec des acteurs de culture complètement différentes, mais aussi avec des intérêts un petit peu quelquefois divergents. Et c'est là où finalement c'est presque un métier, cette animation de réunion. C'est presque c'est une méthodologie, c'est sûr. C'est une démarche de projet. C'est de la co-formation. C'est pas que de l'échange de l'information. C'est vrai que la mémoire, c'est un bon départ. Mais c'est là où ça devient difficile, quand on doit se projeter sur faire un quartier durable, comment on organise le bien vivre ensemble. Ça va quelquefois jusqu'aux gestion du déchet qui n'est pas correcte, hein, où on ne sait pas les conteneurs enterrés, tout ça, ça a l'air d'être terre à terre, mais ça pourrit la vie d'un quartier quand y a des négligences ou des insensibilités par rapport aux déchets. J'en dis pas plus, mais c'est la première vraiment étape, c'est consensuel, mais ça ne fait pas une participation active, autonome et responsable.
Voilà. Alors, je vous propose là, donc c'est un peu, on sort un peu du cadre de la rénovation urbaine parce que là, je vais vous parler du projet de donc à Senon et donc avec Madame Kubera qui est présidente du CNL.
Alors, ce quartier depuis les travaux, eh bien, il est un peu déstabilisé parce que voilà, on a été un peu surpris de voir arriver le doublement de la voie ferrée sans plus d'informations. Mais ce que nous pensons tous aujourd'hui, c'est que quelque chose qui nous a été imposé sans trop nous tenir au courant. On a subi d'énormes tracas. On a eu d'énormes tracas par rapport à cette venue des travaux, le doublement de la voie qui impacte notre résidence. Bon, mais aujourd'hui, on vit avec les bétonneuses, voilà, tout ce qui impacte les travaux d'un doublement de voie ferrée.
Comment vous avez vécu cette situation ?
Nous avons tous pensé que on nous mettait la voie ferrée, mais voilà, mais c'est tout. Vous n'avez rien à dire, elle arrive, les travaux. On a lu des coupures dans la presse des uns et des autres, c'est comme ça. Mais je pense qu'avant de commencer des travaux de cette envergure, on aurait peut-être pu penser qu'il y avait à la résidence Cellier 108 logements qui drainent 500 personnes à peu près, avec des enfants qui vont à l'école Courgambetta, des commerces, ils font vivre de certains commerces. Enfin, la vie de quartier est pour aujourd'hui pas trop perturbée, mais elle risque de l'être demain.
Est-ce que vous pourriez décrire les nuisances au quotidien que vous avez vécues ?
Alors, les nuisances au quotidien, eh bien, c'est très tôt le matin, l'été, c'est-à-dire 7h le matin jusqu'à 20h le soir. Alors, on ne construit pas une voie ferrée avec des petits marteaux, donc vous devez penser que ça a été quelque chose de très dur, surtout en plein été. Après, eh bien, la circulation des trains qui sont pour le moment restés au même nombre de passages, mais qui risquent d'être de 300 ou 400 trains jour quand ça sera terminé. Et ce que nous déplorons, c'est que les gens qui ont pensé à cette voie ferrée, ils n'ont pas pensé à nous. Mais ça, bon, on a un peu l'habitude de savoir qu'on fait d'abord les choses et on les dit après.
Alors, quelles sont vos inquiétudes sur l'avenir ?
Mais moi, d'inquiétude sur l'avenir, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va être proposé, sachant que c'est pas quand même une population hyper riche, hein, voilà, et avec des enfants, bon, pour la plupart, et pour être relogé dans les mêmes conditions qu'à Cellier, avec les mêmes prix, ça me semble difficile, ça me semblera difficile, oui. C'est ce qui me préoccupe quand même, c'est déraciner tout un quartier à tous les niveaux.
Est-ce que vous auriez des souhaits ou des demandes à faire aux institutions ?
Des souhaits, déjà qu'on nous tienne au courant, et chaque fois qu'il y aura un événement, que ça ne nous arrive pas quand ça sera presque fini, de savoir ce qui va être fait. Et puis en même temps, écoutez, qu'on essaie de faire le mieux possible pour la population de Cellier au niveau du relogement. On attend, voilà, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, comme on dirait d'autre.
Merci. Donc, on remercie Madame Kubera pour ce témoignage. Donc, la question que je me pose aujourd'hui, donc, on a entendu les habitants ont découvert le projet au moment où les ouvriers sont arrivés. Alors, est-ce que c'est encore possible, ça, aujourd'hui, dans une ville, de procéder comme ça ?
Alors, oui. Ça s'est passé à Senon. Je pense que le représentant du GIP sera plus enclin à apporter peut-être un témoignage, mais en tout cas, à ce nom, c'est pas une pratique municipale. Parce que tous les projets, ça je le dis en tant qu'agent, il me semble que les projets phares qui touchent la ville, les élus concernés, et ces derniers sont en permanence à côté des habitants, ça m'étonnerait quand même.
Alors, ce qu'elle dit, elle remet pas en cause la mairie d'ailleurs, hein, elle remet en cause plutôt l'État, hein, sur RFF, quoi, voilà.
C'est donc, une autre dimension.
C'est une autre dimension, oui. Alors, je vais revenir à mon témoignage de Mme Kubera, là, il y a quand même beaucoup d'institutions qui rentrent en compte, donc comment on fait là dans ces cas-là ? Comment ça se passe ?
De toute façon, c'est un projet qui vient d'intérêt national, qui vient de l'État, avec le grand service public et l'entreprise publique qu'est la SNCF, et c'est le projet de doublement du pont et de la voie SNCF de Bordeaux, qui est lié à l'arrivée de la ligne à grande vitesse. Donc le maire comme les habitants, n'est pas plus consulté sur l'intérêt du projet et n'a de marge de manœuvre. Donc on peut en tirer trois conséquences. D'abord, la première qui est un peu ironique, c'est que l'État demande aux communes dans les projets urbains de développer de la concertation et de la participation, mais ne va pas jusqu'à appliquer ça à ses propres, projets. Ensuite, plus sérieusement ou plus au fond, on est dans des projets qui concernent l'ensemble des habitants du Grand Ouest, voire plus. Donc, qui doit-on concerter ? Est-ce que c'est les habitants de la cité et du quartier Henri Sellier de ce nom ? Ou est-ce que c'est l'ensemble des gens qui sont potentiellement intéressés à la ligne LGV ? On voit bien les difficultés sur l'écart des chaînes. Quel est l'intérêt du projet ? Et enfin, et là effectivement, les communes font une fois saisies et essaient de faire de leur mieux pour obtenir pour les habitants et pour le territoire un certain nombre d'aménagements et de compensations, dont les systèmes anti-bruit. Il y en a eu plusieurs qui ont été acceptés, mais ni le maire de Sedan, ni les habitants, ni les maires des communes autour dans le pouvoir de remettre en cause le tracé de la ligne LGV qui est décidée en dehors d'eux. Donc c'est certains maires et certains groupes de pression, mais là c'est extrêmement puissant, et puis quand ils sont sur la Côte d'Azur ou au Pays Basque, parfois arrivent à légèrement ralentir des projets ou les faire un petit peu bouger, mais c'est pas toujours dans la possibilité de tous les maires.
Alors je pense que ça, les habitants d'Henri Sellier, pour les avoir rencontrés hier, l'ont bien compris. Ce qu'ils, eux, reprochent, c'est vraiment d'avoir un manque d'informations
auprès de qui
Oui, moi je pense que Mme Cubrera elle fait une erreur, ou alors elle ne s'est pas souvenue de certaines choses. Mais il faut savoir qu'il y a des réunions de quartier, donc déjà, bon, mais voilà. Et ensuite, en 2006, RFF avait fait une première réunion, donc elle était là. En 2008, au Château du Diable, avec M. le maire, elle était là également. Donc je pense qu'elle ne doit pas s'en souvenir, mais ce n'est pas grave, voilà.
Bon, alors je vous propose, avant de repasser la parole à Christophe Arpaillange, on va réécouter une dernière interview, parce que là, on a eu des choses un peu négatives, et je vous propose d'écouter un peu aussi des gens qui sont contents. Enfin, une personne notamment, parce qu'on n'aura pas le temps d'en passer d'autres. Donc on va écouter la dernière interview.
Je m'appelle Diane et j'habite Lormont.
Comment vous avez vécu cette transformation de la ville ?
Personnellement, j'ai trouvé cette idée, ce projet très important, dans le sens où ça allait dynamiser effectivement les habitants de Lormont, peut-être donner une touche nouvelle à la ville. Voilà, c'est toujours effectivement intéressant d'habiter dans une ville jolie, avoir de l'espace vert et quelque chose de beau. On s'y sent bien et on a envie d'apporter aussi sa contribution, s'investir un peu plus, voilà. Pour ma part, je l'ai très bien vécu parce que, bon, au départ, il y a quelque chose de nouveau qui se construit, quelque chose de nouveau qui va se créer. Donc, moi, je l'ai bien vécu, mais bon, effectivement, il y a eu du bruit, donc ça n'a pas été évident, voilà. Mais bon, je l'ai très bien vécu parce que je savais qu'il allait y avoir quelque chose de positif derrière ça. Et donc aujourd'hui, j'en suis contente du travail réalisé, de l'effort effectivement des habitants, de la ville, de la mairie et puis bon, tout autre partenariat évidemment. Donc, non, j'en suis fière. Et puis, je pense que les projets vont continuer à naître et à prospérer. Donc, c'est le but.
Je remercie Diane pour son témoignage, en tout cas, qui, elle reste sur une image positive de la rénovation urbaine. Il y en a d'autres. Je rappelle que la radio n'est pas un sondage, ne fait pas office de sondage. On récolte juste quelques paroles d'habitants. Donc, Christophe Arpaillan, je vais vous laisser résumer, peut-être faire le bilan de ces 10 ans de rénovation urbaine et puis surtout les projets à venir. Et puis, je laisserai pour finir la parole à Jacques de l'Écho des Collines, qui est à mes côtés et qui souhaite témoigner aussi.
Alors, le bilan, on l'a effectué en partie de manière collective. Et on a depuis le mois, ça fait à peu près un an d'ailleurs, depuis le mois d'octobre 2012, L'initiative du GPV, mais ça a concerné tout le monde, s'est réunie à raison d'ateliers autour d'un certain nombre de thèmes. Ceux qui étaient dans le projet, c'est-à-dire le logement et l'urbanisme, l'éducation, puisqu'il y a eu des écoles, le sport et la culture, puisqu'on n'a pas parlé, et quand même dans un bilan du rôle essentiel des équipements publics, il est assonant, mais on a d'autres exemples ailleurs, de parler de toute la dynamique culturelle et sociale qui s'enclenche autour du rocher. C'est des équipements phares qui est aussi à inclure et qui est dans les programmes de renouvellement urbain. Donc, et à partir de ces, on a pris ces thèmes-là qui étaient les thèmes un peu forts et les thèmes sur lesquels on est peu intervenu, la question de l'emploi, par exemple, la question de la santé. Et à partir de là, on a pu faire non pas le bilan de la rénovation urbaine parce qu'il est impossible. Il y a d'autres phénomènes, certains qui sont allés dans le bon sens, mais qui ne relèvent pas de la rénovation urbaine au sens strict. Le rôle du tramway, oui. Le rôle du pont Jean-Jacques Bosse, ne serait-ce que sur les déplacements. Là, c'est pas dans les projets du territoire, mais évidemment, ça y contribue fortement. Des éléments de situation positive ou négative, mais du sud de contexte global. On a fait la moitié du projet en période dynamique et l'autre moitié en période de crise sociale et économique. Et évidemment, on peut percevoir, en suivant le relogement et les suites, qu'on n'est pas dans la même atmosphère, les mêmes attentes et les mêmes anticipations des habitants. Donc, à partir de 2007-2008, on n'a pas tout à fait les mêmes choses d'un côté et de l'autre. Et là, ce n'est pas la rénovation urbaine en tant que telle. Ou des choses qui sont des mouvements encore plus d'ampleur. On voit, il est ressorti que le centre de l'agglomération qui était à la ville-centre est maintenant en train d'être dans ce qui est l'intra-rocade. Et donc notre territoire, qui était une banlieue, devient un centre. Et inclus dans le centre, ce qui amène des choses à la fois perçues classiquement positivement. On a maintenant des promoteurs privés qui viennent, à ce nom, à leur nom, et ailleurs, implanter d'office des logements ouverts à tous. Donc ils vont dans le sens d'une diversification de la société, alors qu'ils ne venaient pas sur la rive droite il y a quelques années. Donc il y a un effet tramway, un effet changement d'image, de territoire, de qualité. Il y a le parc des Coteaux qui contribue à ça. Il y a aussi la dynamique des prix sur l'agglomération. Mais en même temps, ça implique ça. Et puis l'idée de développement durable, et choses comme ça, qu'on densifie les espaces. Et les habitants avaient la culture du grand ensemble avec ces espaces que parfois on désignait l'espace vide ou de terrain vague entre les deux, quand on était critique, mais qui, une fois qu'on les démolit et qu'on revient, on nous dit, mais vous avez fait, vous densifiez, vos tours, vous avez fait des choses qui sont très proches, on est presque en face de chez le voisin. Mais ça, c'est un changement urbain qui nous dépasse tous, et le parti pris des villes, de la CUB et des partenaires, c'est de dire, si on ne l'organise pas, de toute façon, ça se fera sans nous, voire ça se fera contre nous. On ne peut pas complètement tout changer, mais en y mettant de l'action publique, on peut au moins essayer de le contrôler et d'aller dans le sens le plus favorable, et avec le moins d'inconvénients possible, ou on espère, hein, vis-à-vis des habitants. Donc il y a une suite de projets, mais là les élus sont mieux placés que moi pour en parler, mais qui veut dire qu'on a l'impression qu'on a fait à peu près la moitié du travail. Donc il reste, qu'est-ce qu'on fait sur les quartiers qui n'ont pas été concernés, et du coup qui vont jurer, le quartier de Dravemont à Floirac, qui jouxte le quartier du 8 mai 45, qui est entièrement revu, rénové, réhabilité, le quartier du milieu, à Bassens, le quartier Prévert.
Oui, encore plusieurs quartiers.
Voilà, il y a encore plusieurs quartiers sur lesquels. Mmh. Et puis, il y a un gros potentiel qui se travaille actuellement avec la ville de Bordeaux sur ce qu'on appelle la pleine rive droite. Arrive le pont Jean-Jacques Bosque. Et là, on sait que ça va changer. On a des terrains anciens industriels, on a des choses comme ça. Et on dit qu'il faut faire un projet commun. Et les cinq maires, là, sont d'accord. Mais
on ne connaît pas le projet.
Ben non, parce qu'on est en début. En puis là, il n'y a pas complètement des habitants. Il y a aussi beaucoup de friches industrielles.
D'accord. Alors, l'émission arrive à sa fin. Je vais laisser Jacques poser une dernière question. Et...
Une question, une impression. Là. Je pense que ça fait une dizaine d'années que les médias de proximité, comme Eau de Radio, comme l'Écho des Collines, suivent avec beaucoup de passion ce bouleversement de la rive droite. Mais c'est sûr que l'information et la participation des habitants, c'est énorme comme sujet, c'est pas facile. C'est plein de tentatives formidables, mais finalement, c'est peu de choses par rapport à ce qui reste à faire. Et lorsque Christophe Arpaillange là, parle de ces grandes lignes de force comme l'environnement, hein, le parc des coteaux, comme le renouvellement de toutes les écoles, hein, les médiathèques, est-ce que les habitants, etc., les conséquences de la zone franche, par exemple, qui sont tout à fait positives, est-ce que les habitants sont tout à fait conscients de tout cela, qui est une partie indissociable du renouvellement urbain, hein, voilà. Alors, je pense que les médias font ce qu'ils peuvent pour faire passer ces messages.
Merci Jacques. Jeannette Belloc.
J'aime bien votre conclusion avec le travail qui a été fait, le travail qui reste à faire, mais il faut se dire aujourd'hui que c'est possible et que c'est absolument le défi qui nous attend, parce que les gens ont besoin de reconnaissance, les gens ont besoin d'une expertise d'usage et les gens vraiment veulent s'impliquer dans l'embellissement de leur quartier et veulent vraiment faire quelque chose pour leur quartier, ça c'est clair. Vous parliez des grands vous parliez des grands ensembles vraiment, et moi je vais vous dire par rapport à une ville comme Lormont. La médiathèque est ouverte depuis 2011. 4000 adhérents à la bibliothèque, à la partie bouquins. 4000 adhérents sur une ville de 21 000 habitants. 90% de Lormontais. 90% de Lormontais. Alors quand on parle de lecture, de difficulté de lecture, ça tord quand même un petit peu les idées reçues dans tous les sens. Voilà, je voulais dire ça. Et je crois que toutes ces petites évaluations qu'on pourrait transmettre à la population permettraient aussi de restaurer cette confiance-là.
Merci Josette Belloc. Alors vraiment là, on se retrouve pour notre émission de questions de médiation le mois prochain. Et je vous souhaite tous une bonne journée sur Eau de Radio.
Merci.